l'évangile selon Matthieu ce matin et faire une lecture que certainement vous connaissez parce que nous allons lire une parabole très connue eh bien, du Seigneur Jésus. Et ça se trouve dans Matthieu au chapitre 7e et au verset 24. Matthieu chapitre 7 et le verset 24 nous dit ceci. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, je voudrais parler ce matin de la solidité de la foi en Jésus-Christ. De la solidité de la foi en Jésus-Christ. Nous le savons, nous passons par des temps qui sont compliqués. Et c'est vrai qu'on a l'impression que une catastrophe succède à une autre. Alors je veux pas, j'allais dire assombrir le tableau, mais nous savons que nous sommes dans un monde où il y a la violence du terrorisme. Nous savons qu'il y a des violences sociales. Nous savons que bon, merci Seigneur, on sort d'une pandémie, mais voilà, c'est toujours en suspens quand même. Et puis maintenant, on s'ajoute à tout cela, eh bien, un conflit qui est à nos portes. Et certainement, face à ce climat anxiogène, nous avons besoin de réaliser que celui qui place sa foi en Jésus-Christ, eh bien, il est semblable à cet homme qui a bâti sa maison sur le roc. Il peut y avoir toutes sortes eh bien, de contrariétés, d'épreuves qui peuvent survenir, mais la foi demeure solide, alléluia. Et ce qui est bâti sur le roc, ça tient debout, alléluia. Et je voudrais que nous puissions repasser cela eh bien, dans notre cœur. L'évangile selon Matthieu parle de l'autorité de Jésus en tant que roi, que messie. Cet évangile selon Matthieu s'adresse eh bien au peuple juif qui attendait eh bien le messie, voulait un sauveur, un roi qui à la façon de David soit un guerrier, le fils de David. Et c'est pour eux c'était cela, eh bien qu'il les délivre des Romains, qu'il les délivre des nations étrangères. Mais en réalité, le Seigneur est venu pour nous délivrer eh bien, d'un ennemi plus dur que cela, plus dur que toute sorte de puissance étrangère, pour nous libérer du diable, pour nous libérer du pouvoir du péché, pour nous libérer de la puissance de la mort, pour nous donner la vie éternelle. Alléluia. Et seul Jésus est capable de faire ça. Et nous allons le voir eh bien, ensemble. Et puis, le Seigneur, c'est un petit peu une intro que je vous fais là, eh bien, utilise dans ce récit eh bien, le style littéraire qu'on appelle une parabole, c'est-à-dire une comparaison. C'est-à-dire qu'au travers de quelque chose de très simple, une maison qui est bâtie sur le roc, une maison qui est bâtie sur le sable, donc c'est extrêmement simple, eh bien, il nous fait comprendre eh bien, au travers de mots de tous les jours des réalités spirituelles qui sont peut-être un peu plus difficiles à saisir. Voyez, c'est-à-dire que le Seigneur eh bien, se met à notre portée et il emploie un langage eh bien, que chacun eh bien, peut comprendre. La maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia. Amen. Et c'est de cela dont je voudrais que nous parlions ce matin et que nous parlions de la force de ce roc, mais aussi de la force de la foi. Et je voudrais aussi vous parler d'une foi qui est sans force, parce que ça existe. J'annonce déjà une chose. Vous avez remarqué que celui qui choisit de bâtir sa maison sur le sable, il ressemble à l'homme qui a déjà entendu la parole de Dieu, mais qui ne la met pas en pratique, qui n'en tient pas en compte. Ça veut dire qu'il a déjà... Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas. Il sait ce qu'il faut faire, mais il ne le fait pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert de savoir ce qu'il faut faire, de recevoir la parole de Dieu, de dire oui, c'est la parole de Dieu, j'y crois. Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais de faire comme si ça n'existait pas. Et nous terminerons en disant, mais le Seigneur veut renouveler ta force. Alléluia. Toi qui t'es peut-être éloigné, toi qui t'es affaibli, le Seigneur veut renouveler parce que Jésus est celui qui relève toujours. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. On va suivre ce plan-là, si vous voulez bien. Et donc, la force du roc. Dans la parole de Dieu, nous le savons, eh bien Jésus, c'est le roc. Dans Matthieu 16, au verset 18, Jésus eh bien, dit à Pierre, tu es Pierre, mais sur ce roc, il parle de lui-même. Hein. Il y a deux mots différents. Toi, tu es une pierre, voilà. Tu vas t'édifier sur le roc. Mais sur ce roc, je bâtirai mon église. Alléluia. La figure du rocher, l'image du rocher pour parler de Jésus, elle nous est déjà donnée dans l'Ancien Testament. Regardez, il y a un texte que j'aime beaucoup, je voudrais le partager avec vous. Dans Ésaïe au chapitre 26 et au verset 1er. Et lisez, relisez ce texte. Il nous est dit, en ce jour-là, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle à celui qui est ferme dans ses sentiments. Tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Alléluia! Jésus, eh bien, est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les nations peuvent changer, les événements, les circonstances, eh bien, évoluent autour de nous, mais le rocher des siècles est toujours là. Alléluia. Il y a quelques années en arrière, j'ai fait deux passages dans la ville de Grenoble pour le service de Dieu. Et dans le premier passage, à la fin des deux premières années que j'ai passées là-bas, je suis allé visiter une dame qui était atteinte d'un cancer. Et ça se passait donc à l'hôpital de la Tronche, pour ceux qui connaissent, à Grenoble. Et cette femme était vraiment complètement diminuée. Et je lui ai parlé du Seigneur et de dire, il faut fonder votre foi sur Christ. Il est le rocher. Et en face de nous, on avait la chaîne de montagne, eh bien le massif de la Chartreuse qui était là. Et on avait vraiment un bloc là de pierre qui était devant nous, une falaise. Et je lui ai dit, mais regardez cette falaise. Je suis sûr que, avant même que les hommes ne viennent sur cette terre, ce roc était déjà là. Et à moins qu'il se passe quelque chose, eh bien, après qu'on ait quitté cette terre, ce roc sera toujours là. Et je voudrais vous dire, Jésus, il est éternel. Il est encore plus solide. Il ne passe pas parce qu'un jour, tout sera une fin. Mais ce roc, eh bien, nous parle de Jésus, le Christ, le Fils de Dieu. Et je lui ai dit, eh bien, vous-même maintenant, placez votre foi en Jésus. Et je crois que c'est une image qui est venue de la part du Seigneur. Je lui dis, à chaque fois que vous regardez par la fenêtre, vous qui êtes atteinte de ce cancer, eh bien, et que vous voyez ce roc, pensez, ma foi, elle est placée en Jésus-Christ, sur le rocher. Moi, je peux trembler, le rocher ne tremble pas. 5 ans plus tard, je suis revenu dans la ville de Grenoble, toujours pour le service de Dieu, après avoir servi le Seigneur dans une autre ville. Une chrétienne m'a dit, il y a ma sœur qui voudrait te voir. Et c'était la sœur d'une chrétienne. Et me voilà dans la salle à manger avec cette dame. Et je la reconnais. Vous vous souvenez de moi? J'étais cette dame qui avait ce cancer. Et je voudrais vous dire merci pour les paroles que vous m'avez dites. Parce que je me suis appuyé sur Jésus. Et j'ai été guéri de mon cancer. Alléluia! Amen! Et l'Écriture nous dit que Jésus est le rocher sur lequel, eh bien, nous pouvons bâtir notre vie. Le Seigneur est celui qui a manifesté la puissance d'un roc, mais inamovible. Il est celui qui est solide. Le ministère terrestre nous montre Jésus en train de chasser des démons. Nous souvenons de cet homme qui était investi d'une légion de démons, le démoniaque de Gadara. Mais quand Jésus est passé dans sa vie, on retrouve cet homme, eh bien, assis, vêtu dans son bon sens. Il est dans la paix, alléluia. Nous voyons le Seigneur eh bien, pardonner une femme qui est dans la débauche, une femme pécheresse de telle sorte que certains disent, s'ils savaient de qui quel genre de femme c'est, ils ne se laisseraient pas toucher par elle. Mais Jésus est venu pour sauver les pécheurs que nous sommes, alléluia. Et il lui dit, eh bien, tes péchés sont pardonnés, va en paix, alléluia. Le Seigneur nous libère du péché, il nous donne une vie nouvelle. Alléluia. Et Christ, eh bien, et celui également est capable, eh bien, de vaincre la mort. Alléluia. Pour nous, c'est important parce que je sais que Eh bien, moi, que le Seigneur vienne et que je fasse partie du grand voyage de l'enlèvement de l'Église, mon corps, si cela n'arrive pas, mon corps retournera à la poussière, mais mon âme est vivante et mes yeux le verront. Alléluia. Alléluia. Amen. Je serai avec le Seigneur. Il a vaincu la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus a donné sa vie à la croix pour mon péché. Et maintenant, le don gratuit qu'il me fait, c'est la vie éternelle. Eh bien, en son nom, tout a été accompli. Amen. Et tout cela, eh bien, nous pouvons en profiter non seulement parce que, eh bien, Jésus est venu, mais afin que cette victoire s'étende pour tous les siècles, il a donné sa vie à la croix. Alléluia. Et à jamais, dans le ciel, il est l'agneau de Dieu qui a été immolé, alléluia, et qui permet à chacun d'entre nous d'avoir une assurance, eh bien, vivante, une foi vivante, et nous savons, eh bien, où nous allons, amen. Alors, amen. Et peut-être quelqu'un a-t-il besoin de dire Seigneur, peut-être quelqu'un qui vient pour là ou les premières fois, quelqu'un peut-être qui ne connaît pas le Seigneur, révèle ton salut, Seigneur, à mon âme. J'ai besoin d'avoir cette assurance. Dieu t'aime, il s'est fait homme, il est venu pour donner sa vie pour toi, afin que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle, alléluia. Mais je voudrais que nous nous posions la question, que nous disions, oui, d'accord, Seigneur, tu emploies la figure du rocher, tu emploies la figure du roc pour te signaler et montrer qui tu es, mais pourquoi ? Eh bien, ça nous est dit dans la parabole, eh bien, afin que nous puissions bâtir notre vie sur lui. C'est-à-dire que la vie chrétienne, votre vie, ma vie, la vie d'une église, ça se construit. Il y a des bâtisseurs ici. Ça ne se construit pas tout seul, une maison. Ça ne se construit pas tout seul, eh bien, une salle de bain ou je ne sais pas quoi. Il faut transpirer, il faut travailler. Regardez ce que Pierre, il est bien nommé Pierre, hein, parce que ça veut dire, hein, voilà. Hein, et on parle de bâtir. Dans 1 Pierre, voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit au chapitre 2, au verset 4, il nous dit ceci, « Approchez-vous de lui, et c'est Jésus, approchez-vous de Christ. Christ, c'est la pierre vivante, c'est le fondement. » Il est rejeté par les hommes, mais il est choisi et précieux devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, etc. Et il nous a dit, édifiez-vous. Et mon frère, ma sœur, as-tu conscience que tu dois participer à la construction divine ? Que par ta présence dans ce lieu, aux réunions, etc., de l'Église, au rassemblement du peuple de Dieu, eh bien, tu participes à l'édification du corps de Christ. Alléluia. Quand il manque une pierre quelque part, je remercie le Seigneur de ce que, dans notre, à première vue, dans notre logement, il ne manque pas de pierre. Voilà, il ne manque pas d'aglo. Je m'imagine que s'il manquait un aglo dans la chambre, c'est frais froid quand même. Voilà, bonjour, voilà, non, mais il nous manque un aglo. Hein. Bon, mais mes frères et sœurs, notre présence est là, elle est indispensable. Et non seulement notre présence physique, mais également le soutien que nous devons... qu'on se doit les uns aux autres. Il y a des pierres qui sont en dessous, il y a des pierres qui sont au-dessus, il y en a certaines qui soutiennent les uns, d'autres qui permettent eh bien, d'élever les autres, etc. Et le tout forme un corps, alléluia. Et l'Écriture nous dit, nous invite à travailler eh bien, dans ce sens-là, dans le sens d'appartenir à une église locale, mais également pour notre vie personnelle. Regardez, Romains 12. Vous êtes d'accord qu'on lise la Bible ? Bon, on est un peu là pour ça. Hein. Voilà, ne faites pas le reproche. Vous lisez beaucoup trop la Bible, pasteur. Il faut la lire, alléluia. Hein, ami ? Voilà. On va mettre plein de Bibles aussi à la bibliothèque. Hein. Voilà. Romains 12, regardez ce qui nous est dit. Romains 12. Alors là, vous avez de quoi travailler. Vous avez de quoi bâtir. Regardez ce qui nous est écrit. Que l'amour, la charité, l'amour, hein, soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien, par amour fraternel, soyez plein d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervent d'esprit, servez le Seigneur, réjouissez-vous en espérance, soyez patient dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez, ne maudissez pas, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, n'aspirez n'attendez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, s'il est possible, autant que cela dépend de vous. Soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Et on pourrait lire encore d'autres textes. Vous avez remarqué l'impératif, agissez, veillez, priez, etc. C'est-à-dire que la vie chrétienne, c'est une vie d'action. Alléluia. Et je voudrais te poser cette question. Est-ce que tu construis ta vie? Est-ce que ça fait partie de ta marche avec le Seigneur? Est-ce que la vie chrétienne, pour toi, c'est simplement lire un éphéméride, le trésor quotidien, la bonne semence? Voilà, je reçois. Est-ce que c'est simplement entendre une prédication et c'est très bien? Mais est-ce que c'est aussi mettre en pratique? Je vais faire ce que le Seigneur me demande de faire. Alléluia. Les premiers croyants étaient des hommes et des femmes comme vous et comme moi qui avaient compris que la vie avec le Seigneur amenait un haut degré d'implication. Merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Mais parce que tu m'as sauvé, eh bien maintenant, eh bien je vais travailler à mon salut. Alléluia. Je vais bâtir, non pas avec du foin, non pas avec de la paille, non pas avec du chaume, mais comme l'apôtre le dira, avec de l'or, avec de l'argent, avec des pierres précieuses, avec ces matériaux qui nous viennent du ciel, avec une foi vivante, avec les dons de l'esprit, avec eh bien le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et l'Écriture nous dit ceci. Eh bien, si ces choses sont en vous et si elles sont en abondance, c'est Pierre qui le dira dans sa deuxième épître, vous ne broncherez jamais. Parce qu'on sera toujours occupé. Et c'est ça la vie chrétienne. Amen. Amen. Alors, cette foi, elle nous rend fort. Elle nous rend fort. Et vraiment, mes frères et sœurs, je voudrais le partager. Tout à l'heure, on va aborder un thème. Je voudrais d'abord voir l'homme prudent. Et je vais prendre un exemple. On va aller dans le deuxième livre des Chroniques et on va s'intéresser au roi Ézéchias, un homme qui a été prudent, un homme qui a bâti. Je suis en train d'étudier la vie de ce roi Ézéchias. Ce qui est d'extraordinaire et d'étonnant aussi, c'est qu'il a laissé une grande empreinte aussi au niveau de l'histoire, j'allais dire profane, des archéologues qui ont retrouvé le canal qu'il a fait construire à Siloé. Il y a eu l'armée des Assyriens qui l'a assiégé. Bon, voilà, c'est très intéressant le règne d'Ézéchias. Mais regardez ce qui nous est dit dans Deux Chroniques 31, le verset 20. Il nous est dit, voici ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Donc, lisez un petit peu ce qui est en haut. Et il fit ce qui est bien, ce qui est droit, ce qui est vrai. Il a agi devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et les commandements. En réalité, cet homme a rétabli la relation de Dieu avec le peuple en rénovant le temple qui avait été oublié, qui avait été mis de côté. Il a rétabli le peuple dans l'alliance en renouvelant la fête de la Pâque, etc. Et il a rétabli le peuple dans sa mission, c'est-à-dire de servir Dieu. Alléluia. Il a bâti, il a construit. Et peut-être nous avons besoin d'être les uns et les autres des Ézéchias. Alléluia. De dire Seigneur, amen. J'ai besoin de m'impliquer davantage, j'ai besoin de bâtir, j'ai besoin de construire. Et je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, et je le dis avec émotion, pour n'avoir pas suffisamment construit, certains se sont laissés emporter. Parce que je voudrais vous dire, de la même manière que nous sommes, de la même manière qu'Ézéchias a rencontré des difficultés et que le roi d'Assyrie est venu pour envahir son pays, l'Écriture nous annonce que des temps difficiles viendront, où non pas des ennemis physiques viendront, mais une pression spirituelle, peut-être même une pression politique, viendra pour essayer de nous faire tomber. Et nous avons besoin de nous préparer. Et ce n'est pas moi qui le dis, parce que l'Écriture nous parle de cela. Le vent a soufflé, les torrents se sont jetés contre la maison. Je ne suis pas ici volontairement pessimiste pour profiter d'une actualité, pour jouer sur la corde sensible. Mais j'en profite pour vous rappeler que le Seigneur a parlé de ces choses-là et qu'il nous a dit que la maison n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Alléluia! Il y a une mauvaise nouvelle. Les épreuves sont là, oui, les détresses sont là, mais il y a une bonne nouvelle. Si tu bâtis ta vie sur Jésus, tu auras la paix. Alléluia! Tu rencontreras des obstacles, tu rencontreras des difficultés, tu rencontreras des attaques, mais tu resteras debout. Amen, alléluia. Et regardez ce qui nous se passe. Je reprends toujours dans 2 Chroniques, et cette fois-ci, je vais au chapitre 32 et au verset 1. Il nous est dit, après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et qui assiégea les villes fortes et dans l'intention de s'en emparer. L'ennemi attaque, mais regardez au verset 7, la foi, je vous ai parlé de la solidité de la foi, la force de la foi. C'est ça qu'il nous faut. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler, des événements qui me dépassent. Voilà, je peux pas tout contrôler. On n'est pas le Seigneur, on n'est pas Dieu. On ne peut pas tout contrôler. Mais il y a des choses sur lesquelles j'ai une prise par la foi. Et 2 Chroniques, chapitre 32, verset 7, dit, voilà, il s'adresse au peuple de Dieu, il s'adresse à leur cœur. Que le Seigneur s'adresse à ton cœur également, pas seulement à ton intelligence. Et il nous est dit, fortifiez-vous, ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie, devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel notre Dieu qui nous guidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance, voyez la foi, le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Alléluia! Et mes frères et sœurs, c'est là où on retrouve, eh bien, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous, eh bien, en l'Éternel, le rocher des siècles. Alléluia, amen. Et mes frères et sœurs, ça, on peut le faire. Seigneur, je me confie en toi, je m'appuie sur toi. Et l'Écriture nous enseigne, eh bien, que par un miracle, Dieu va mettre en déroute cette armée innombrable qui assiégeait la ville de Jérusalem. Parce que si je reprends dans 2 Chroniques au chapitre 32 et au verset 20, eh bien, il nous est dit ceci. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, se mirent à prier à ce sujet. Ils crièrent au ciel. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confus retourna dans son pays. Il entra dans la maison de son Dieu. Là, ceux qui étaient sortis de ses entrailles le firent tomber par l'épée. Deux de ses fils vont tuer leur propre père, tandis qu'il était en train d'adorer son idole. Ainsi, l'Éternel sauva Ézéchias et les habitants de Jérusalem de la main de Sanchérib, roi d'Assyrie, et de la main de tous. Il les protégea contre ceux qui les entouraient. Amen! Alléluia! Alors, je me suis renseigné là-dessus parce que j'aime bien l'histoire et contrôler tout ça. Et il y a un historien grec qui a un peu le fondateur de l'histoire moderne, je ne sais pas, enfin de l'étude de l'histoire. Je ne sais pas s'il y a des étudiants en histoire, mais s'il y en a, le nom d'Hérodote doit vous être familier. Et il s'est intéressé à cet épisode. Et lui, il dit, effectivement, lorsque le roi d'Assyrie a assiégé Jérusalem, 135 000 soldats sont morts suite à une épidémie. Lui, il dit une épidémie. La parole de Dieu, il y a un ange qui est venu et qui a jugé, alléluia, parce que des hommes ont crié au Seigneur, « Seigneur, délivre-nous, Seigneur, sauve-nous, alléluia. » Avec lui, il y a un bras de chair, mais avec nous, il y a l'Éternel des armées qui combattra pour nous. Alléluia, amen. Et la vie d'Ézéchias, eh bien, nous montre, eh bien, que quand on construit, quand on anticipe les événements, lorsque la tempête surgit, eh bien, on est fort et on est en mesure, eh bien, de l'affronter avec foi. Alléluia. Fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Ça, c'est une arme du diable. Le diable, il cherche à faire peur. Le Seigneur est avec nous, alléluia, et lui, il fortifie notre foi, à lui soit la gloire. Amen. Alors, je voudrais avancer en disant qu'il existe quand même une foi qui est sans force. des hommes et des femmes que la Bible appelle insensés. Ils savent ce qu'il faut faire. Ils sont au contact de la parole de Dieu. Ils sont au contact de Jésus. Rappelez-vous que le sermon sur la montagne que nous avons lu, et cet extrait avec cette parabole des deux maisons, elle s'adresse aux disciples du Seigneur, à des gens qui déjà croient en lui. Et il dit, mais il y a des gens parmi vous, ils entendent la parole, mais ils sont insensés parce qu'ils ne mettent pas en pratique eh bien, ce qu'ils entendent, ce qu'ils reçoivent. Et j'ai cherché dans le grec, eh bien, le mot pour insensé, c'est moros. Alors, ça ne vous dit pas... Voilà. Alors, peut-être moros, morose, je ne sais pas, mais ça veut dire folie, réfléchie. Mais surtout, la racine de ce mot, c'est une contraction d'un autre mot grec qui est mysterion. Et mysterion, mystère. Mystère. Alors, les mystères, c'est en grec, ce sont des choses cachées. Des mystères. Les mystères, les secrets d'une religion, d'une information qui est confiée seulement à des initiés. Vous savez, il y a des gens, et parfois même des enfants de Dieu, il y a la Bible, mais ils veulent savoir encore plus que ce que la Bible veut dire. Voilà, mais et je voudrais attirer votre attention aujourd'hui eh bien sur le phénomène d'une... Avant, on parlait de propagande. On disait qu'il y a de la propagande. Vous savez, quand j'étais enfant, il y avait... le bloc de l'Est, le bloc de l'Ouest, et il y avait de la propagande. Je me souviens, il y avait dans l'usine où bossait mon père pendant une période, il y avait des ouvriers qui étaient, et les pauvres, ils étaient dans leur syndicat, tout ça, ils expliquaient, mais le mur de Berlin, il est fait pour que les ouvriers de l'Ouest n'aillent pas à l'Est, parce que là-bas, c'est le paradis, mon œil. Vous voyez, et ça, c'était de la propagande. Il y avait des gens qui étaient prêts à y croire. L'Écriture nous dit ceci dans le livre des Proverbes, au chapitre 9 et au verset 13. La folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. C'est le contraire de la femme vertueuse. Hein. On ne parle pas beaucoup de la femme vertueuse. Mais qu'est-ce qu'elle agit ? Qu'est-ce qu'elle fait comme bien ? Mais là, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège, dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, que celui qui est stupide entre ici, et elle dit à celui qui est dépourvu de sens, les eaux dérobées sont douces et le pain du mystère est agréable. Il ne sait pas que là sont les morts et que ses invités sont dans les vallées du séjour de la mort. Des gens qui s'occupent eh bien, d'informations qui sont sans importance et qui se laissent eh bien, perturber, séduire par toutes sortes de langages mystérieux. Mais voilà, mais moi je sais voilà, qu'en réalité on nous a dit ça, mais c'est ça. Mon frère, ma sœur, au lieu de te perdre dans toutes sortes de conjonctures, bâtis ta vie sur le Seigneur. Construis ta vie en Jésus. Alléluia. Sois de celles et ceux qui bâtissent pour que le témoignage de l'Évangile eh bien, il puisse apparaître comme un phare dans la nuit, dans un monde eh bien, qui est en train de périr. Alléluia. Il y a des hommes qui ont besoin non pas d'entendre eh bien, BFM ou j'en sais rien, mais qui ont besoin d'entendre l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur eh bien, soit béni. Je vous invite vraiment à agir de cette façon-là. Parce que l'Écriture nous montre que, eh bien, dans une certaine situation, eh bien, des hommes devaient être sauvés, mais ils ont été perdus. Je pense au gendre de Lot, vous vous souvenez ? Lot, il était dans les affaires de Sodome et Gomorre. Il avait voulu faire sa vie là-bas. Vous vous souvenez de cela ? Je vais accélérer pour pas voilà alourdir le message. Mais l'Écriture nous dit que Lot avait des gendres et il leur dit mais il faut sortir maintenant parce que c'est le moment où Sodome et Gomorre vont être détruites. Et l'Écriture nous dit à leurs yeux il parut plaisanter. Ils n'ont pas pris au sérieux eh bien la parole du Seigneur. Et je me dis mais pourquoi ils n'ont pas pris au sérieux la parole de Dieu ? Mais parce que peut-être que Lot c'était pas non plus le premier des exemples. Tu nous dis que Dieu est saint, tu nous dis que Dieu est juste, tu nous dis, mais enfin quand même, comment ça se fait que tu es dans Sodome et Gomorre ? C'est qu'une histoire d'argent, c'est qu'une histoire de réussite professionnelle. Vous savez, mes frères et sœurs, L'Écriture nous dit, eh bien, que il en sera comme à l'époque, eh bien, de Sodome et de Gomorre, quand le Seigneur reviendra, ou de, du déluge. On mangeait, on buvait, et on se mariait, tout va bien. Mais ils ont péri sous une pluie de feu et de soufre, eh bien, qui tomba du ciel. Alors, attention à la recherche de la réussite, la distraction, eh bien, des plaisirs, si cela se fait au détriment du salut de ton âme, mais tant de, soyons de celles et ceux, eh bien, qui refusons un aveuglement et qui disons, Seigneur, je veux bâtir ma vie sur toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Parce que si cet exemple nous est donné, c'est pour notre instruction. Amen. Que nous soyons de celles et ceux qui bâtissons, eh bien, qui persévérons, eh bien, sur la parole de Dieu. Il me semble qu'il y a une séduction à l'heure actuelle. J'ai noté cela, la tentation d'un christianisme de masse sur Internet. Tout le monde regarde, c'est bien, il y a 78 000 vues, 100 000 vues, je ne suis pas tout seul. Quel culte formidable. Oui, mais excusez-moi de vous dire, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Sauf si vous êtes malade, vous pouvez, bien sûr, mais la vie chrétienne, c'est une vie de rassemblement. Dans la Bible, dans l'Écriture, Ancien et Nouveau Testament, le peuple se rassemble physiquement. Il est là, il prie ensemble. Les jeunes, comme les moins jeunes, les enfants, les femmes, les vieillards, les adultes, tout le monde est là et sous le regard du Seigneur. Et c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Alléluia. Amen. Et nous avons besoin d'être unis, mes frères et sœurs, plus que jamais. Alléluia. Autour du Seigneur. Alors je termine en disant que cette force, eh bien, cette foi vivante, cette force peut être retrouvée. La Bible nous parle, et je termine là-dessus, eh bien de David qui est passé par des moments difficiles. Vous savez que David, c'est cet homme qui était persécuté, poursuivi par le roi Saül. Et il dira dans le premier livre de Samuel, au chapitre 27 et au verset 1er, je vous le lis, il dit « Je périrai un jour par la main de Saül, il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. » Et ainsi, j'échapperai eh bien, de sa main. Et voilà, il dit, mais c'est sûr, un jour, je vais mourir. Saül va arriver à mettre la main sur moi, il va me tuer. Et voilà, alors je vais trouver refuge dans le pays eh bien, des Philistins. Je voudrais vous dire que cet homme qui avait l'habitude de bâtir sa vie sur le roc, là, il est en train de bâtir sa vie sur le sable. Parce que oui, il va chercher refuge eh bien, chez les Philistins. L'ennemi, lui qui a battu Goliath, lui qui était en guerre contre les Philistins, de ses ennemis, il en fait des amis. Mais ça ne marche pas comme ça, la vie. Hein, voilà. Ce n'est pas parce que tu vas faire copain-copain avec tes collègues de bureau que tu vas employer les expressions et que même le langage, tu vas essayer de l'adopter. Vous savez, il y en a un qui a voulu faire comme ça. C'était l'apôtre Pierre. Vous vous souvenez, quand il a renié le maître. Et ils lui ont dit, mais ton langage te fait reconnaître. Hein, tu n'es pas avec nous, toi. Tu es avec lui. Et lui, eh bien, au lieu de rester fidèle au Seigneur, mais je ne l'accuse pas, parce que c'est un homme de la même nature que nous, et on peut être tenté de dire, je vais trouver mon refuge dans des solutions humaines. Mais Naomi, dans le livre de Ruth, a fait la même chose. C'est la disette, on va tous partir eh bien, au pays de Moab, et là, eh bien, on aura de quoi manger. Il y a du boulot là-bas, il y a du travail. Et vous connaissez la suite, elle a perdu son mari, ses deux enfants sont mariés avec des inconvertis. Ils sont tous les deux morts, les deux fils, mari, deux fils morts, et elle revient chez elle, c'est une pauvre veuve, et heureusement qu'elle a une de ses belles-filles qui s'appelle Ruth, et vous connaissez la suite de l'histoire, alléluia. Mais quel drame, quel drame! Et chez les Philistins, ben ce n'est pas du tout un refuge sûr, parce que dans une certaine circonstance, il va tout perdre. Des ennemis amalécites vont venir, vont brûler le village, Ziklag, dans lequel ils se trouvaient, et ils vont emporter toute leur famille, les femmes et les enfants, les provisions, les richesses, et ils se retrouvent là, mais complètement démunis. Et l'Écriture nous dit que David eh bien, fut dans une grande angoisse au chapitre 30 de 1 Samuel au verset 6, car le peuple parlait même de le lapider. Regarde, à cause de toi, les conséquences de son péché, les conséquences de la désobéissance, les conséquences d'avoir cessé de construire et de bâtir sa vie sur le Seigneur. Mais Dieu est un Dieu qui fait grâce, alléluia. Et l'Écriture nous dit, parce qu'il y a des mais extraordinaires, il nous est dit ceci, « Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. » En s'appuyant. en s'appuyant sur le rocher, alléluia, en reprenant des forces sur celui qui ne change pas, alléluia. Et je voudrais dire peut-être à un frère et une sœur dans cette matinée, tu as oublié de construire sur Jésus, tu t'es relâché, tu as abandonné et tu es en train de découvrir que tes propres réflexions t'ont amené à des choix qui te perdent à présent. Mais le Seigneur n'a pas changé, il est celui qui veut ton succès, il veut te relever. Et il est celui qui te dit, mais appuie-toi sur moi, alléluia. Toi, tu as changé dans ta foi, mais moi, je n'ai pas changé. Et je veux que tu retrouves tout ce que tu as perdu. Amen. Alléluia. Et ça, c'est un Dieu merveilleux. C'est le Dieu d'amour qui nous est révélé dans la personne du Christ. Le Fils qui révèle le cœur du Père. Alléluia. Et, Dieu va lui dire, mais poursuis-les tes ennemis. Puisque tu t'appuies sur moi et tu les atteindras et tu délivreras ta famille. Et l'Écriture nous dit ceci, et je vous le relirai dans 1 Samuel, le chapitre 30. David sauva tout, David ramena tout, David prit tout, alléluia. Et on parle à partir de ce moment-là du butin de David, alléluia. Il a retrouvé ce qu'il avait perdu parce qu'il s'est appuyé comme tout à nouveau sur le rocher des siècles, alléluia. Sur le Seigneur, qu'il est bon notre Dieu, amen. Et tandis que, il est encore temps, tandis que nous entendons sa voix, ça signifie qu'il n'est pas trop tard. Notre frère David nous a dit, à chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soin de lui-même. Mais c'est aujourd'hui qui compte, c'est aujourd'hui. Et je termine en citant David dans le psaume 18. Et il dira ceci, donc c'est au chef des chantres, du serviteur de l'Éternel, de David, qui adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Il dit, « Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. » Et le verset 17 nous dit ceci, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse. Mais l'Éternel fut mon appui, il m'a mis au large, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. » Amen. Vous avez remarqué ? Je t'aime, ô Éternel, il m'a sauvé parce qu'il m'aime. L'amour qui répond à l'amour, alléluia. Ne serait-ce pas temps, peut-être pour plusieurs au milieu de nous, de dire, Seigneur, je veux de nouveau m'appuyer sur toi. Je ne veux pas me confier dans l'homme, je ne veux pas me confier même dans mes propres raisonnements. Ils me perdent, ils m'empoisonnent, mais je veux m'appuyer, Seigneur, sur ton conseil et je vais bâtir. Alléluia. Même si je pleure, même si parfois il y a des temps de découragement, mais je sais que parmi vous, il y a des bâtisseurs, il y a des constructeurs, il y a des... Louis, on n'est pas toujours en pleine forme le lundi matin. Hein. Des fois, ça coince un peu, hein. Mais on y va. Voilà, et on fait le boulot. Et voilà, je vois Joël aussi qui est là-bas. Hein. C'est vrai, Joël, hein. Voilà, là, j'ai des gars du bâtiment, hein. Gloire à Dieu, amen. Mais que nous soyons tous des hommes et des femmes du bâtiment du Seigneur. Alléluia, des constructeurs. Amen. Vous l'avez bien compris le Seigneur ensemble, alléluia. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur. Et nous ne voulons pas nous laisser aller au découragement. Et nous ne voulons pas nous laisser à la séduction d'une construction facile en disant, je vais bâtir sur le sable. Puisque tout le monde a une copine, je vais en avoir une. Puisque tout le monde triche financièrement, les impôts, etc., moi aussi, je vais le faire. Seigneur Jésus, nous sommes des enfants de Dieu. Seigneur, et nous voulons bâtir notre vie sur le rocher, sur celui qui est la vérité. Seigneur, nous ne voulons pas simplement nous contenter d'entendre, mais nous voulons mettre ta parole en pratique. Seigneur Jésus, et comme nous l'avons lu, Seigneur, mais la vie chrétienne, elle est tellement riche. Riche de lecture, de compréhension, de prière, d'affection, d'amour, Seigneur, d'exhortation, d'encouragement, Seigneur, de témoignage, Seigneur, de consécration, Seigneur Jésus, nous avons tout en toi. Seigneur, tu es le rocher des siècles. Alléluia. Et celui qui bâtit sa vie sur toi, Seigneur mon Dieu, vois les eaux s'écarter devant lui parce que tu as vaincu Satan, tu as vaincu la mort, tu nous donnes la victoire. Et Seigneur, je te prie peut-être pour un frère, une sœur, Seigneur, qui s'est découragé, qui s'est lassé, et qui, Seigneur mon Dieu, qui, Seigneur mon Dieu, c'est comme assoupi pour bâtir sur le sable et il voit déjà que ça craque. Alors si ça craque maintenant, qu'arrivera-t-il plus tard ? Seigneur, tu nous rappelles l'exemple de David. Seigneur, qui se ressaisit, qui reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Il est revenu à toi et tu l'as béni. Alléluia. Et Seigneur, je te prie afin que si au milieu de nous, il y avait des frères et des sœurs, Seigneur, qui s'étaient relâchés dans leur construction spirituelle, puissent de nouveau s'appuyer sur toi et Seigneur, participer, Seigneur, à leur salut, Seigneur, qu'ils travaillent. À leur salut, Seigneur, qu'ils bâtissent pour leur famille, qu'ils bâtissent pour eux-mêmes, qu'ils bâtissent pour l'Église. Alléluia. À toi la gloire, Seigneur. Alléluia. Tandis qu'on est sous le regard de Jésus, il y a peut-être un frère ou une sœur qui désirait que l'on prie pour lui, pour elle, parce qu'il a besoin d'être encouragé, pour rebâtir, pour s'appuyer, pour retrouver cette confiance, cette assurance qu'il a peut-être perdue pour construire. Alors, si vous voulez que l'on prie ensemble, que le Seigneur vous renouvelle, à votre place, voilà un signe de la main. Voilà, vous dites, voilà, j'ai besoin. Oui, il y a plusieurs qui lèvent leur main. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous relève, vous renouvelle. Et il va vous donner la force pour que, par sa grâce, vous puissiez reconstruire. Par sa grâce, vous puissiez reconstruire ce qui a été bâti. Et même au travers de vous, c'est lui qui va le faire. Alléluia. Seigneur, je veux t'apporter ces bien-aimés. Seigneur, je te remercie pour ta parole, Seigneur, qui nous édifie, qui nous relève, qui nous console. Seigneur, et qui, Seigneur, ne nous abat jamais. Et lorsque tu nous reprends et que nous sommes attristés, Seigneur, ce n'est pas pour, Seigneur, nous anéantir, Seigneur, mais au contraire, c'est pour, Seigneur, nous prévenir. Alors, Seigneur, nous te remercions pour ton attention. Et Seigneur, nous voulons retrouver, Seigneur, une force, une foi forte en toi. Seigneur, tu nous avertis et l'actualité nous indique combien, Seigneur, les vents sont là, la tempête est là, même toute proche. Mais Seigneur, tu nous dis que celui qui bâtit sa vie, sa maison sur toi, il tiendra bon, Seigneur. Alors, Seigneur, je te demande de bénir ses frères, ses sœurs. Tu vois, certains peut-être qui ont été attristés, peut-être qui ont été usés, peut-être qui se sont découragés ou qui se sont, Seigneur, relâchés. Mais ce matin, Seigneur, ils se confient en toi. Ils s'appuient tout à nouveau sur le rocher des siècles. Alors, Seigneur, je te prie afin qu'ils soient comme David. Seigneur, qu'au travers de leur vie, Seigneur, tu te serves pour que ce qui a été détruit soit reconstruit. Seigneur, qu'ils sauvent tout, qu'ils ramènent tout, qu'ils prennent tout ce que l'ennemi a dérobé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Seigneur, parce que tu es celui qui fait grâce. Je te remercie, Seigneur, et je te rends grâce. Et je te prie, Seigneur, particulièrement, pour qu'en sortant de ce lieu, Seigneur, mon Dieu, mais ils puissent expérimenter la vie de l'Esprit, le Saint-Esprit qui va agir dans leur vie. Seigneur, à toi la gloire. Merci, Père Céleste. Nous te remercions. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vous dis à bientôt.